Voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. L'État de l'Alabama aux États-Unis a voté cette nuit la loi anti-avortement la plus répressive du pays. Jusqu'à 99 ans de prison pour un médecin pratiquant l'IVG. Nous retrouvons notre correspondant outre-Atlantique dans un instant.
Et puis nous nous pencherons ensuite sur un documentaire qui pousse le gouvernement polonais à durcir sa loi contre la pédophilie. Ce film sur les prêtres pédophiles tourné en caméra cachée a été vu 13 millions de fois.
La polémique est quasi éternelle. Comment faire débattre tout ou presque tous les candidats aux élections européennes ? France 2 et France Inter organisent deux émissions à la suite en soirée la semaine prochaine. Une mascarade, répondent certains.
Les premières réponses aux vœux d'orientation en études supérieures seront dévoilées ce soir sur Parcoursup. Nous nous interrogerons sur un éventuel manque de place cette année encore.
Et puis nous rejoindrons Cannes, sa croisette et son festival. Premier film projeté hier, une histoire de zombies. Après ce journal, Frédéric Seyss s'intéressera dans son billet politique à l'électorat de droite. Il est au centre des convoitises entre La République En Marche et Les Républicains. Et l'on commence donc par cette offensive grandissante des anti-avortements aux États-Unis et leur nouvelle victoire hier. L'État de l'Alabama a adopté un texte particulièrement restrictif. Les médecins pratiquant des avortements risqueront des peines allant jusqu'à 99 ans de prison. C'est désormais l'une des législations les plus dures du pays concernant l'IVG, Grégory Phillips.
Le texte voté hier soir revient pratiquement à interdire l'avortement. L'interruption volontaire de grossesse ne sera autorisée qu'en cas de danger immédiat pour la vie de la mère. C'est la seule exception. Même les grossesses consécutives à un viol ou un inceste ne pourront pas être soumises à une IVG et les médecins pratiquant ces avortements risqueront jusqu'à 99 ans de prison. La loi a été adoptée par un Sénat d'Alabama très majoritairement masculin, 3 femmes pour 31 hommes.
Mr. Allen. Mr. Barfoot. Mr. Beasley.
Et elle ne sera pas appliquée car immédiatement contestée devant les tribunaux, mais dans cet état d'Alabama, il ne reste déjà plus que 3 cliniques à encore pratiquer des IVG. Ces derniers mois aux États-Unis, 6 états, dont la Géorgie récemment, ont adopté des législations qui interdisent l'avortement dès le premier battement de cœur du fœtus, c'est-à-dire à environ 6 semaines de grossesse. Dans le pays, l'offensive contre l'avortement est concertée et l'objectif des ultra-conservateurs est clair, aller jusqu'à la Cour suprême et remettre en cause l'arrêt Roe versus Wade qui en 1973 avait fait de l'accès à l'avortement un droit constitutionnel.
Grégory Phillips depuis Washington pour France Culture. Et hasard de l'actualité, notez qu'on a appris qu'au Maroc, 6 personnes dont 2 médecins seront jugées ce mois-ci pour avoir pratiqué clandestinement des avortements. L'IVG est actuellement passible de prison dans le royaume marocain. Et pour aller plus loin par ailleurs sur ce sujet, n'hésitez pas à retrouver un article complet sur franceculture.fr, article sur le droit à l'avortement, un accès très inégal dans le monde. Certains l'attendaient en Algérie, c'est au Soudan que le dialogue a été visiblement productif. Un mois après l'éviction par l'armée du président soudanais Omar el-Béchir, civils et militaires ont trouvé un accord hier soir. Les civils disposeraient des 3/4 des sièges dans la structure de transition dans le pays. Une transition qui devrait durer 3 ans. Il n'y a pas de transition qui tienne en revanche au Venezuela, où la tension est toujours grande entre le gouvernement et l'opposition. 5 nouveaux députés de l'opposition voient leur immunité parlementaire levée pour rébellion. Leur chef de file, Juan Guaido, accuse le pouvoir de Nicolas Maduro de vouloir bâillonner le Parlement. D'ailleurs, hier, les accès à l'Assemblée nationale ont été bloqués par les forces de l'ordre. Des tensions arbitraires, mais aussi assassinats ciblés dans le pays. Amnesty International appelle la Cour pénale internationale à enquêter. L'ONG évoque de possibles crimes contre l'humanité au Venezuela. Sa responsable pour les pays d'Amérique, Geneviève Garrigos, donne des chiffres ce matin.
Du 21 au 25 janvier, nous avons pu constater qu'il y avait au moins 47 morts. 33 l'ont été par les forces de l'ordre directement. Il y a 11 exécutions extrajudiciaires, dont 6 que nous avons étudiées dans les détails. Et plus de 900 personnes détenues, dont des enfants et des jeunes. Or, pendant cette période, ces morts avaient été ciblées, des opposants déclarés ou présumés en tant que tels. Et vu l'ampleur du nombre de morts, mais aussi le fait que ces morts ont été enregistrés sur la moitié du pays, pourraient constituer des crimes contre l'humanité. Non seulement tout le commandement était au courant de ces morts, mais y compris au niveau de M. Maduro, il était lui-même informé. Et cela aussi est un des éléments éléments constitutifs justement de ce qui pourrait être des crimes contre l'humanité. Suite à ces morts, aucune enquête ni de méthode préventive n'a été prise. Ce que l'on voit, plus de 1000 mouvements de manifestations, mobilisations par mois, c'est ce que veut faire taire le gouvernement.
Des propos recueillis par Nadine Epstein. Jusqu'à 30 ans de réclusion pour des crimes pédophiles. La Pologne pourrait devenir l'un des pays les plus intransigeants en la matière. Son gouvernement l'a dit hier soir après la diffusion d'un documentaire. En à peine 4 jours, ce film a été vu plus de 13 millions de fois. Documentaire polonais disponible gratuitement sur la plateforme YouTube. Il s'intitule « Seulement ne le dis à personne » et il montre des aveux en caméra cachée de prêtres pédophiles devant leurs victimes. Thomas Giraudeau.
Le film débute par une confrontation. Une femme victime des attouchements d'un prêtre à l'âge de 7 ans le rencontre 30 ans plus tard. L'homme est à la retraite, n'a jamais été condamné et ne sait pas qu'il est filmé.
Vous avez touché mes parties intimes, là où vous n'auriez pas dû.
Je n'aurais jamais dû faire cela. Je le regrette profondément. C'était une passion stupide. Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire ?
Le prêtre lui demande pardon, fin de la séquence. Le réalisateur détaille ensuite d'autres affaires. Des curés mis en cause ou condamnés pour pédophilie ont été envoyés dans d'autres paroisses, certains continuant d'officier auprès d'enfants. Après la mise en ligne du film, le primat, le premier archevêque de Pologne, a présenté ses excuses à toutes les victimes, assurant qu'il mettrait tout en œuvre pour les aider et éclaircir ses dossiers. Membre d'une association d'aide aux victimes de prêtres pédophiles, Agata Diduszko-Zeglewska en doute sérieusement.
On parle là des crimes que l'Église dissimule. Donc la seule réaction possible, celle qu'on attend de l'Église, est la suivante. Ok, nous transmettons tous les dossiers à la police maintenant. Et demain, cet évêque et celui-ci et encore cet autre seront démis de leur fonction, car ils ont couvert des viols d'enfants. Mais cela, ils ne le font toujours pas. Les victimes le ressentent comme une nouvelle claque, une gifle.
Le gouvernement conservateur proche de l'Église a annoncé un allongement des peines jusqu'à 30 ans maximum pour pédophilie. Encore faut-il, insiste la militante, que les prêtres accusés soient amenés devant la justice et que les faits ne soient pas prescrits.
L'Église qui est mise en cause également pour des agressions sexuelles sur des personnes majeures. En France, le représentant du Vatican en est ainsi accusé. Il sera confronté la semaine prochaine à 4 hommes qui ont porté plainte contre lui. La scierie d'Ascoval à Saint-Saulve dans le Nord pourra-t-elle vraiment être reprise par British Steel? Selon la presse britannique, le sidérurgiste est menacé de faillite. Il demande même à l'État anglais 75 millions de livres pour faire face au Brexit. Le groupe explique que les difficultés au Royaume-Uni n'impacteront pas la reprise de la scierie nordiste. C'est justement aujourd'hui que la reprise doit être effective pour les 268 salariés du site. Le Brexit qui inquiète et qui n'est toujours pas acté, un nouvel accord sera soumis au Parlement britannique la semaine du 3 juin prochain. Theresa May l'annonçait hier soir après avoir rencontré le chef de l'opposition travailliste Jeremy Corbyn. Il est 8h passé de 8 minutes sur France Culture. Les candidats à la présidence de la Commission européenne s'affrontent ce soir lors d'un débat. Ce sera sans doute le débat le plus européen de la campagne d'ailleurs. En 2014, les européennes désignaient tacitement le président de la Commission européenne, était alors nommé le chef de file de la famille politique arrivé en tête du scrutin. Actuellement, les sondages donnent le PPE gagnant. Son candidat, son Spitzenkandidat, est le bavarois Manfred Weber. Il devrait donc être investi par les eurodéputés. Sauf que, Marie-Pierre Véraud, le procédé ne fait plus consensus.
L'idée qui a présidé à la naissance du Spitzenkandidat était de donner une légitimité démocratique au président de la Commission européenne, souvent accusé d'être composé de hauts fonctionnaires non élus et déconnectés des réalités. D'où l'importance de nommer le représentant de la famille politique qui aura raflé le plus de suffrages. Le Parlement y est particulièrement attaché. Un joli scénario qu'Emmanuel Macron a décidé de torpiller. Le président français ne veut pas se lier les mains face au chef de parti. D'autres pays lui ont emboîté le pas. Pas question de soutenir Manfred Weber, jure le Hongrois Orban, qui ne lui pardonne pas ses critiques contre les atteintes à l'état de droit. L'Italie et la Grèce ont aussi fait part de leur hostilité, sans compter les réserves des Pays-Bas, du Danemark, de la Belgique, voire de la Lituanie, dont la présidente se verrait bien à la tête de la future commission. Chacun a donc ses raisons. Mais force est de constater que la candidature de Manfred Weber est loin de faire consensus au sein du Conseil européen. Il doit en outre réunir une majorité au Parlement, comprenant non plus 2, mais 4 partis. Or, peu charismatique et très conservateur, le Bavarois ne fait même pas le plein dans son propre parti. Rien ne garantit donc que le futur président de la Commission soit ce soir autour de la table du grand débat. Mais si les chefs d'État s'avisent de ne pas proposer au Parlement l'un des Spitzenkandidaten, il leur faudra convaincre les eurodéputés qu'ils respectent malgré tout la volonté des urnes. Sauf à sortir de leur manche un candidat de consensus, le Français Michel Barnier pourrait cocher beaucoup de cases.
Voilà donc pour les candidats à la Commission européenne. Au Parlement maintenant, on se bat toujours pour y siéger. Duel de liste au niveau national cette fois. Les débats s'organisent en France et les polémiques qui vont avec. Plusieurs candidats menacent ainsi de boycotter une émission sur France 2 et France Inter la semaine prochaine. Les chaînes ont décidé de couper les débats en deux. 6 candidats ou chefs de parti en première partie de soirée, ceux qui sont crédités du plus grand nombre d'intentions de vote. Et puis 9 autres candidats en deuxième partie de soirée. Certains dénoncent une parodie de débat, Rosalie Lafarge.
France 2 invoque un besoin de clarté et surtout un respect scrupuleux des critères de représentativité du CSA.
N'inventons pas des règles du CSA là où aujourd'hui le service public audiovisuel a choisi ses candidats.
L'argument est fallacieux pour Benoît Hamon de Génération.
La République En Marche n'envoie pas sa candidate, le Front National n'envoie pas son candidat, les Républicains n'envoient pas leur candidat. Dans les faits, des gens qui ne siégeront pas au Parlement européen vont débattre. C'est déjà une concession que je trouve incroyable. Et on nous renvoie, nous, à partir de 23h, quand tout le monde sera couché, où on aura le droit de discuter. Cette fois plus à 6 mais à 9, donc c'est un nouveau déni de démocratie. Moi, ça me met très en colère.
Dans ces conditions, l'ancien candidat à la présidentielle refuse le débat, tout comme Yann Brossa, la tête de liste communiste, a elle choisi de saisir le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Je considère effectivement que cette répartition n'est pas juste parce que de fait, France 2 décide qu'il y a deux grosses listes et deux petites listes. D'une certaine manière, France 2 fait l'élection avant les électeurs. Donc une fois de plus, France 2 choisit de s'asseoir sur le pluralisme. On ne peut pas accepter ce type de comportement.
Une fois de plus, parce que début avril, déjà un débat a tourné au bras de fer judiciaire entre France Télévisions et plusieurs têtes de liste. D'abord prévu à 9, l'émission a fini sous la pression des petits candidats par être élargie à 12. Mais devant le Conseil d'État, c'est France 2 qui l'a finalement emporté. Pour la haute juridiction, la chaîne est libre de choisir ses invités. Jurisprudence apparemment entendu par BFM qui organise ce soir un duel entre deux candidats seulement, les deux premiers des intentions de vote, Jordan Bardella du Rassemblement National et Nathalie Loiseau pour la majorité.
Les candidats aux études supérieures sauront à partir de ce soir 19h lesquels de leur choix ont été acceptés. Réponse sur la plateforme Parcoursup. Le ministère précise que les places dans les formations sont plus nombreuses que l'année dernière, mais il y a cette année davantage de candidats, notamment des jeunes en reprise d'études, près d'un sur 9 inscrits. Il s'agit pour beaucoup de candidats recalés l'année dernière, comme le précise au micro de Jade Péchira, Abdoulaye Diarra, il est vice-président de l'UNEF, l'un des principaux syndicats étudiants.
On sait qu'il y a eu pas mal d'étudiants qui se sont retrouvés l'année dernière sans solution d'inscription, qui ont été poussés l'année dernière à aller faire des années de césure. Évidemment, il y a des craintes parce que plus de jeunes qui s'inscrivent dans l'enseignement supérieur avec un système qui malheureusement n'a pas permis aux établissements universitaires d'accroître leur capacité d'accueil, ça va se traduire par plus d'attentes pour un certain nombre de jeunes et tout simplement des jeunes qui se retrouveront sans aucune solution d'inscription dans l'enseignement supérieur public et qui risquent encore une fois, comme l'année dernière, de devoir se tourner vers des établissements privés ou de devoir mettre leurs études en attente en espérant que l'année d'après, des solutions leur seront offertes.
Premier résultat en tout cas donc sur Parcoursup ce soir à partir de 19h. Facebook durcit ses règles de diffusion de vidéos en direct. Le réseau social anticipe ainsi l'appel que doivent lancé aujourd'hui Emmanuel Macron et plusieurs dirigeants du monde, appelle à mieux censurer les contenus terroristes sur Internet, comme une réponse à la vidéo du meurtre diffusé après l'attentat de Christchurch en Nouvelle-Zélande. C'était il y a 2 mois. Nous vous l'avions promis hier, le voilà levé et prêt à tout nous raconter. Antoine Guillot depuis le festival de Cannes qui s'est ouvert hier. Bonjour Antoine.
Bonjour Clara.
Après la traditionnelle montée du tapis rouge et l'ouverture du festival, vous avez assisté Antoine à la première projection, le film de Jim Jarmusch, The Dead Don't Die, montrant une Amérique envahie de zombies.
Oui, on le sait, Clara, Jim Jarmusch adore jouer avec les genres. Il a déjà revisité le western avec Dead Man, Ghost Dog mixé, le film de samouraï et celui de gangster. Broken Flower, c'était une comédie romantique et un road movie. Et Only Lovers Left Alive était un magnifique film de vampire. Avec The Dead Don't Die, il s'empare donc, vous l'avez dit, du film de zombie, un genre à la fois florissant. 55 films et séries du genre ont été dénombrés ces 5 dernières années. Et lui-même, mort-vivant, exploité qu'il est jusqu'à l'os. Le zombie est-il encore quelque chose à dire. Jarmusch retourne aux sources, le film fondateur de George Romero, La Nuit des Morts Vivants, qui en 1968, avec très peu de moyens, dénonçait à la fois la guerre du Vietnam et une Amérique réactionnaire qui résistait au mouvement des droits civiques. 50 ans après, le zombie reste une figure politique toujours aussi efficace et permet aux New-Yorkais de s'attaquer à l'Amérique de Donald Trump, qui à la fois provoque et nie les catastrophes écologiques, macère dans son racisme, voire la casquette rouge « Make America White Again » d'un des personnages, et sa passion des armes à feu, et a vendu son âme contre des biens de consommation. Pocha de post-postmoderne, satirique et asthénique, ce portrait d'une humanité à bout de souffle qui n'a même plus l'énergie de se battre pour sa survie n'est certes sans doute pas le plus grand film de Jim Jarmusch, mais on y retrouve avec bonheur tout son style, minimaliste et musical, fait de répétitions et de variations, d'humour placide et de coulitude mélancolique, et puis son amour des acteurs. Film choral The Dead Don't Die rassemble presque tous ceux qui ont fait sa si belle filmographie depuis près de 40 ans qu'il tourne. Mention spéciale à Tilda Swinton, thanatopractrice excentrique, experte en sabre japonais, tous des zombies sauf elle.
Merci beaucoup Antoine Guillot en direct de Cannes. Je précise que vous recevrez samedi sur France Culture dans Plan Large le réalisateur Jim Jarmusch. D'ici là, on se retrouve nous demain, même antenne, même heure. Quelques mots du temps de ce mercredi. Il sera encore ensoleillé, excepté sur le sud-est. Les températures sont encore assez fraîches. 11 degrés ce matin à Besançon, 13 à Lyon et Marseille, 15 à Paris et Lille, 16 degrés à Rennes et à Bordeaux.